Bienvenue à tous pour ce premier débat des élections législatives anticipées. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, de nouveaux députés doivent être élus. Voici d'ailleurs un QR code, on va vous le donner juste ici, pour vous permettre de connaître les candidats dans votre circonscription. Plus que 10 jours pour prendre votre décision sur celui ou celle que vous porterez à l'Assemblée. Sur BFM Paris Île-de-France, voici donc ce premier débat ce soir au plus près de chez vous. Nous avons choisi ce jeudi la 8e circonscription du département de l'Essonne, un territoire qui couvre les communes de Vigneux, de Montgeron, Hyères, Crosne et Brunois, à la frontière avec le Val-de-Marne. Sur notre plateau, il n'y aura pas tous les candidats, mais nous entendrons au cours de la semaine les sensibilités politiques au cours de ce débat. En tout cas, nous évoquerons trois problématiques, celle de la sécurité, puisque nous sommes dans un département extrêmement concerné, notamment par les phénomènes de rixes entre bandes rivales. Puis nous évoquerons aussi le pouvoir d'achat, l'une des thématiques qui revient le plus parmi les préoccupations des Franciliens. Et enfin, les services publics. C'est parti pour 45 minutes de débat au plus près des préoccupations des habitants de cette circonscription de l'Essonne. Avant de commencer, petit tour de plateau. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes député sortant de cette circonscription. Vous vous représentez pour le parti Debout la France. Vous faites face à François Durovray, président Les Républicains du département de l'Essonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes candidat également donc pour Les Républicains, pour ce département de cette circonscription de l'Essonne. Et puis le dernier candidat sur notre plateau est Béranger Cernon. Bonsoir, bonsoir à vous. Vous êtes candidat pour le Nouveau Front populaire. Avant de vous entendre sur le sens de vos candidatures, sur vos programmes, évidemment, focus justement sur cette 8e circonscription de l'Essonne, sur ce territoire, avec Nicolas Dumas.
L'Essonne, 1,3 million d'habitants. Le département est divisé en 10 circonscriptions. En 2022, lors des dernières élections législatives, la majorité présidentielle a fait élire la moitié des députés. Deux pour la France Insoumise, un pour le PS et le Rassemblement National et Debout la France. Le parti de Jordan Bardella est arrivé en tête lors des européennes dans 8 des 10 circonscriptions et gagne du terrain en doublant le nombre de voix entre le premier tour des élections législatives de 2022 et ses européennes. Sauf dans la première où c'est LFI et la cinquième où c'est le camp présidentiel qui arrive en tête. Mais en additionnant les voix de gauche lors des européennes, les forces changent. Le Nouveau Front populaire arrive en tête dans 9 des 10 circonscriptions, y compris dans la 8e. Cette dernière représente Brunois, Montgeron, Crosne, Hyères et Vigneux-sur-Seine. Le député sortant, ex-candidat à la dernière élection présidentielle et fondateur de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, se représente et affrontera l'insoumis syndicaliste CGT cheminot Béranger Cernon et le divers droite président du conseil départemental François Durovray. Dans cette circonscription, 7 personnes sont candidates, Nicolas Dupont-Aignan et Chantal Duboulet l'étaient déjà en 2022.
Et on va commencer par vous, Nicolas Dupont-Aignan, puisque vous êtes député sortant.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous
avez fait votre 6e mandat dans cette circonscription. Est-ce qu'on peut vous appeler un professionnel de la politique ?
Je n'achève pas puisqu'il y a eu une dissolution. D'abord, merci d'organiser ce débat. Parce que l'intérêt de la dissolution, au moins il y en a un, c'est qu'il y a un vrai débat sur l'avenir du pays, un vrai choix de société. Car ce n'est pas le même choix de société de voter pour un candidat France Insoumise, mon concurrent. Ce n'est pas le même choix de société de voter pour le candidat macroniste, M. Durovray. C'est différent. Et moi, les gens me connaissent au moins. Ils connaissent mes actes, comme maire de Hyères, où j'ai transformé cette ville et mon successeur me soutient. Et puis, comme député, avec des positions claires.
Mais voilà. Candidat et c'est du ça, pacte, malgré 6 mandats déjà...
Mais c'est aux électeurs exercer. De choisir. Moi, je suis fier d'avoir eu le soutien populaire et j'espère l'avoir. Parce que les gens savent, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, que je suis clair. Et dans une démocratie, il faut savoir à qui on a affaire. Il ne faut pas des petites magouilles, des petits arrangements entre les uns et les autres. Et il faut savoir qui on est, qu'est-ce qu'on propose. Et j'ai un projet de société. Vous le savez, j'étais candidat 3 fois à la présidentielle. Donc les gens savent ce que je propose. Et ils savent surtout que ma porte est toujours ouverte dans la circonscription.
Candidat macroniste, François Durovray, vous êtes issu du même parti. Hein. Vous avez même travaillé ensemble.
Je voudrais rassurer Nicolas Dupont-Aignan, je ne suis pas maso. Pendant 7 ans, je n'ai pas soutenu le président de la République et ce n'est certainement pas maintenant que je vais le soutenir alors que le bateau prend l'eau de toutes parts. Ils n'ont sans doute pas trouvé de candidat, c'est leur affaire. De la même manière que M. Dupont-Aignan n'a pas présenté de candidat dans 500 circonscriptions et pour autant je ne pense pas qu'ils soutiennent les députés macronistes sortants. Je suis gaulliste, social. Mais simplement, si aujourd'hui il y a cet enfumage qui est fait s'agissant de ma candidature, c'est parce que M. Dupont-Aignan veut masquer son alliance au Rassemblement National.
Avec qui siégeriez-vous si vous étiez
Si vous me permettez, son alliance avec le Rassemblement National. Vous vous souvenez qu'en 2017, il a été le premier à franchir le Rubicon en s'alliant à Mme Le Pen. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, sur la circonscription, il masque cette alliance. Et si je suis candidat, c'est justement parce que je pense qu'il y a une droite républicaine, gaulliste, sociale, qui a la capacité de porter une voix à l'Assemblée nationale.
Vous parlez d'enfumage, c'est-à-dire...
D'enfumage lorsqu'on me qualifie de candidat appartenant à une majorité à laquelle je n'ai jamais appartenu.
Mais avec qui vous siégeriez donc si vous étiez élu?
Mais on verra de quelle manière l'Assemblée nationale est faite. Il y a aujourd'hui des députés de la droite républicaine indépendante. Je peux vous citer Julien Dix, je peux vous citer Aurélien Pradier, je peux vous citer Antoine Vermorel-Marquès dans la Loire. Il y a beaucoup de députés qui, heureusement, sont issus de la droite républicaine et qui siégeront à l'Assemblée nationale. C'est avec eux que j'ai l'intention de faire le travail.
Béranger Cernon, on a vu une gauche très vite s'unir pour former ce nouveau front populaire. Et puis, même dans notre région, très rapidement, les premières dissensions, y compris au sein de la France insoumise, est-ce qu'elle est vraiment naturelle, cette alliance à gauche?
Bien sûr qu'elle est naturelle, parce qu'aujourd'hui, on est face à plusieurs urgences, notamment la montée de l'extrême droite. Et donc oui, notre responsabilité, c'est de s'unir, c'est de travailler ensemble, c'est de réfléchir ensemble. Bien évidemment, il y a des différences. Mais d'ailleurs, si on serait tous pareils, on serait tous dans le même parti. Donc bien évidemment, il y a quelques différences. Mais pour autant, on a pris la responsabilité de s'unir pour mener un combat commun, pour changer la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que celui qui a amené le chaos et la ruine de ce pays, c'est Emmanuel Macron. Voilà, c'est lui le seul responsable de la situation dans laquelle on est. Et quand j'entends qu'on taxe ce nouveau Front populaire, justement, des pires mots, je trouve que c'est d'une part irresponsable et c'est surtout finalement très mal connaître l'état du pays dans lequel on est.
Comment est-ce que vous comptez peser? Je vous donne la parole juste après, Nicolas Dupont-Aignan. Comment est-ce que vous comptez peser, justement, dans cette circonscription face à un candidat sortant, député depuis 1997, et le président du département?
Ça ne me fait pas peur. Moi, je suis issu de ce qu'ils appellent la société civile. Je travaille, j'ai un métier, je suis agent SNCF. J'ai face à moi un candidat dont ça fait 27 ans qu'il est député. Zéro loi porte son nom. Donc c'est bien d'être indépendant, mais il y a un moment où il faut prendre aussi ses responsabilités. Et puis de l'autre, un président du département, mais pas que, qui est aussi président de l'agglomération, qui est aussi au conseil d'administration d'IDFM. Bref, c'est une vraie liste de mariage, le truc. Donc voilà, en face d'eux, ils ont un candidat qui représente monsieur et madame tout le monde, qui connaît la vraie vie, qui se va pour les idées communes surtout, et arrêter de se diviser et de partir dans tous les sens.
Nicolas Dupont-Aignan.
Moi, je voudrais quand même, la démocratie, c'est la clarté. Mm-hmm. Et j'ai un tweet de M. Julien Nenni, qui est un journaliste de France Télévisions, un de vos confrères. Mm-hmm. Et il dit quoi? Selon ce décompte maison, la majorité présidentielle, donc Emmanuel Macron, ne présente pas de candidat dans 69 circonscriptions et favorise donc les 69 candidats ci-dessous. Et dedans, il y a M. Durovray, il y a la liste, c'est ici. Et il y a un autre communiqué de presse, je finis juste, parce qu'il faut que les Français sachent, des Républicains des Hauts-de-Seine, ils ont un accord, comme dans l'Essonne, parce que ce qu'oublie de dire M. Durovray, c'est que dans la circonscription d'à côté, la 9e, les anciens Républicains ont enlevé leur candidat pour favoriser Mme Guévenoux, macroniste. Donc c'est des petites magouilles, donnant. Parce que tous ces gens-là ont peur. Ils ont peur qu'il y ait un changement dans le pays. Et moi, je pense, François, que tu devrais être honnête. Tu devrais dire aux Français, voilà, j'assume, j'ai un désaccord, je préfère Macron Monsieur Cernon.
Je donne rapidement parce la parole et on va passer au...
La clarté, c'est pas de faire des professions de foi en disant « je suis contre Macron », et puis en fait d'avoir un accord avec Macron. Il faut que les gens sachent.
On va voir justement sur le programme.
Oui. Il faut que les gens sachent, tout est écrit, tout est sûr.
On va passer au programme.
Les électeurs savent très bien où je suis un gaulliste social républicain, je n'ai jamais rejoint M. Macron et ce n'est certainement pas maintenant que je vais le rejoindre, mais cette alliance qui n'existe pas vise simplement à masquer l'alliance dont M. Dupont-Aignan ne veut pas parler avec Mme Le Pen. Avec
mais Madame je vais en
Le Pen. Bon, et pour quelle raison vous n'en parlez pas dans vos documents?
Mais j'en parle.
Dans la circonscription, il n'y a pas un mot de votre alliance avec Madame Le Pen.
Vous êtes soutenu par le Rassemblement national.
Mais je suis absolument toujours sur la même ligne.
Est-ce que vous êtes soutenu par
l'Assemblée
nationale?
Qui n'a jamais changé, si je peux finir, qui n'a jamais changé. Je suis un député indépendant qui siège au non-inscrit. Et j'ai toujours dit que face au danger Mélenchon, parce que monsieur veut élire Mélenchon Premier ministre. Face au danger Macron et François Durovray et pour Macron, oui, je préfère mille fois Éric Ciotti, Jordan Bardella pour changer la France et résoudre les problèmes de sécurité, les problèmes d'emploi, de pouvoir d'achat.
On va y venir.
Et moi, j'assume, je ne cache pas les choses et tout le monde le sait.
On va en venir au fond.
Et Éric Ciotti, vous savez, Éric Ciotti a rejoint enfin une grande alliance.
On a choisi justement la thématique de la sécurité parce que le département est particulièrement en proie au phénomène de violence chez les jeunes en particulier. L'Essonne concentre chaque année 25 à 30% des rixes entre bandes rivales qui se déroulent sur le territoire français. Bérangère Cernon, vous, vos propositions pour la sécurité et enrayer justement ces affrontements entre les jeunes?
Tout d'abord, il est bon de rappeler que malheureusement, ces règlements de compte ne sont pas nés de la dernière pluie et ne sont pas anodins surtout. Ils sont à mettre en lien avec ce qui se passe dans le pays, avec la précarité sociale, avec les inégalités et surtout l'absence de perspective auxquelles on propose ces jeunes. En 40 ans, il y a eu pas moins de 20 lois concernant justement pour régler ces problèmes d'insécurité, ces problèmes qu'il peut y avoir dans certains quartiers. Le résultat, on l'a tous aujourd'hui devant nous, c'est leur bilan, à l'un et comme l'autre. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Tout simplement parce que les solutions apportées ne sont pas les bonnes. Aujourd'hui, il faut faire de la prévention. Il faut sensibiliser. Il faut aider et développer les associations de quartier qui sont en contact direct.
Mais ce n'est pas justement déjà le cas.
Non, ce n'est pas le cas. La preuve, c'est que de plus en plus, ces associations ont des difficultés à pouvoir vivre. De plus en plus, ces associations n'ont pas de financement. Il y a plein de quartiers où ils ont vu leurs services publics fermés. Il n'y a plus rien dans ces quartiers. Il n'y a plus de proximité avec personne. En 2003, Sarkozy a supprimé également la police de proximité. Il faut remettre cette police de proximité.
Ça passe donc par une police de proximité, par un tissu associatif davantage
développé. Mais bien évidemment, vous savez, aujourd'hui, les quartiers populaires, ils votent majoritairement pour nous, pour la gauche. C'est pas anodin, c'est pas rien. C'est parce qu'aujourd'hui...
Ça a tendance à changer un petit peu.
Aujourd'hui, les propositions que l'on porte, elles ont été travaillées avec ces gens-là. Elles ont été réfléchies. Et ceux qui sont les plus à même de les mettre en place, c'est nous. C'est ça la réalité. Et je pense que de parler à la place de ces gens-là, de décider à leur place, d'aller dans le tout répressif, ça ne fait que le creuser d'un sentiment de révolte qui aujourd'hui ne peut s'exprimer que dans la rue.
Vous dites parler à la place de ces gens-là, c'est-à-dire parce que vous, si vous étiez finalement élu député, il y a bien une personne qui doit prendre la parole pour représenter les
gens. Vous savez, je pense que quand on siège 27 ans à l'Assemblée nationale, quand on a des responsabilités comme vous depuis un certain temps, et quand on a fait... En tout cas, eu la chance de pouvoir faire des grandes écoles, je pense que l'on perd très rapidement ce lien avec le terrain et la connaissance du terrain. Et très clairement, aujourd'hui, on est en train d'en payer les conséquences. Je vous dis, 20 lois en 40 ans et la situation n'a fait qu'empirer.
Je vais vous donner réponse, François Durovray, puisque vous présidez le département de l'Essonne. Vous avez déjà, vous aussi, vous êtes déjà exprimé sur ces rixes. Que répondez-vous à M. Cernon?
D'abord, je trouve que M. Cernon fait preuve d'une naïveté confondante. Et j'ai même entendu dans ses propos quelque chose qui me semble assez dangereux, qu'il laisserait à entendre que lorsqu'on habite un quartier populaire, on a forcément... une tendance à être délinquant. Non, tous les citoyens sont égaux et tous les citoyens ont vocation à respecter la loi. Vous savez que la question de la sécurité est une compétence de l'État, une compétence qui aujourd'hui n'est pas assurée correctement partout dans le pays et particulièrement en Essonne. Il faut d'abord modifier la loi. L'abaissement de la majorité pénale à 16 ans,
la question des
peines planchers, par exemple. Mais il faut surtout faire appliquer la loi. Et pour faire appliquer la loi, il n'y a pas de secret. Il faut davantage de policiers, mais surtout davantage de juges. Nous sommes dans un département, l'Essonne, où il y a 42% de magistrats en moins que la moyenne nationale. Il suffirait d'avoir 20 juges supplémentaires dans notre département pour que les affaires ne soient pas classées sans suite, mais qu'elles bénéficient d'un traitement et d'une réponse judiciaire. C'est pas compliqué, c'est à portée de main. Et on peut avoir tout à fait des solutions républicaines pour restaurer la sécurité partout sur le territoire.
C'est un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec la majorité présidentielle ?
Bah manifestement, aujourd'hui, elle n'a pas fait le travail, ne serait-ce que de renforcement des services publics. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais les services publics sont à l'os dans un département comme l'Essonne, et j'en suis sans doute le premier témoin.
Et on va y revenir justement à ces services publics. Nicolas Dupont-Aignan, ce que vous proposez pour lutter contre ce phénomène de RICS ?
D'abord, je voudrais que les choses soient claires. Monsieur est solidaire, il est candidat à Front Populaire, avec monsieur Poutou qui écrit « Oui, la police tue ».
C'est gravissime. On vous demande de parler de votre programme.
Bah non, mais excusez-moi, les Français ont à choisir. Donc quand on vote France Insoumise, on est avec des gens qui pensent qu'il faut désarmer les policiers. Quant à M. Durovray, il critique le bilan d'un président qu'il va soutenir.
Avant
c'est quand même extravagant.
Alors,
je finis.
C'est fatigant. Parlez de vous, de ce que vous voulez
faire. Je vais parler de moi. Moi, j'ai les actes qui parlent. Vous savez que hier, la ville dont j'ai été le maire et dont je suis conseiller municipal avec Olivier Clodon, et la deuxième ville la plus sûre d'Île-de-France, dernier classement 2023. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, les actes parlent pour moi.
Le plus d'amendes au niveau par rapport à la loi SRU.
Alors, est-ce que je parle de sécurité ? La deuxième ville la plus sûre, ça, c'est pas du bavardage, c'est des faits. Mais bien sûr, ça suffit pas. Pourquoi ? Parce que ça fait 20 ans, et là, monsieur a raison, ça fait 20 ans qu'on fait des fausses mesures. Des fausses mesures. Il faut des peines planchers. Il faut des peines planchers. Il faut doubler les peines pour les récidivistes. Mmh. Il faut abaisser la majorité pénale. Monsieur Durovray a raison. D'ailleurs, il reprend une partie du programme de Debout la France. Il avait écrit à une époque. Et puis, il faut absolument, maintenant, avoir une fermeté vis-à-vis des trafiquants de drogue.
Couper qui les pourrissent des parents de délinquants, comme,
bien sûr, comme je l'avais fait dans ma ville, quand Monsieur Durovray était avec moi d'ailleurs.
On l'avait fait.
Et ça a très bien marché. On avait coupé les allocations municipales facultatives, et tu t'en souviens bien, pour les familles de délinquants mineurs. Et ça a remis droit aux mineurs qui sont venus. Merci après. Il faut s'en prendre des mesures. Et ce qui ne va pas aujourd'hui...
Mais pourquoi est-ce qu'elles sont... Vous êtes déjà député. Pourquoi est-ce qu'elles
sont pas... Mais parce que je ne suis pas... Vous avez remarqué peut-être, madame, que c'est monsieur Macron qui a été élu président de la République deux fois. Et vous avez peut-être remarqué, madame, que c'est monsieur... Mais bien sûr, on a proposé quantité de propositions. Mm-hmm. On a même eu à chaque débat budgétaire, avec monsieur Darmanin, des amendements pour dire il faut renforcer les moyens de la justice davantage que monsieur Dupond-Moretti. Il faut arrêter les sorties de prisonniers préventive. Vous avez vu qu'il y avait une balade au château de Versailles pour les délinquants graves, pour viol et meurtre, qui venaient de Toul, que j'ai fait annuler grâce à la pression qu'on a mis avec les policiers. Parce que, en fait, quand il y a un laxisme général, et puis il faut construire les places de prison, j'avais proposé de construire dans les casernes désaffectées, parce qu'il ne faut pas mélanger les primo-délinquants, des délinquants chevronnés. Mmh. Il ne faut pas être tout répressif, il ne faut pas être tout préventif. Il faut trouver un équilibre, mais ça exige des moyens et puis un changement radical. Et puis enfin, il faut expulser les délinquants étrangers, trafiquants de drogue,
je vais donner
qui
la parole
occupent
vous,
nos prisons.
Parce que pour
et il faut oser le dire.
Parole, on doit remonter un petit peu. Béranger Cernon, votre réaction à ce programme.
Bah, écoutez, moi, ce qui me gêne énormément, c'est qu'on propose rien, ces jeunes, en fait. On leur propose pas
de travailler.
On leur propose pas. Nous, on a des vraies propositions. Par exemple, la garantie d'autonomie pour ces étudiants. Parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas les moyens, non seulement il faut travailler pour ses études, mais en plus de ça, il faut travailler pour pouvoir se payer ses études, son logement, etc. Mmh. Et ça, vous voyez, quand vous avez les moyens, forcément, il y en a qui sont privilégiés par rapport à d'autres.
Et donc,
il y a également la question...
ces jeunes, très concrètement.
Très concrètement, je viens de vous le dire, une garantie d'autonomie qui leur permettra de vivre et de ne pas avoir un travail à travailler à côté de leurs études, de pouvoir se concentrer sur leurs études.
C'est-à-dire un revenu pour les jeunes ?
Tout à fait, pour les étudiants, pour pouvoir se concentrer sur leurs études et qu'ils aient exactement la même chance de réussite les uns et les autres.
Comment est-ce qu'on finance cette mesure ?
Alors là, je vais vous dire, pour financer, il y a plein de solutions. Mmh. On nous a expliqué, je pense que vous l'avez tous entendu, que le programme, notamment du Nouveau Front Populaire, allait creuser le déficit, allait poser problème, etc.
C'est d'ailleurs une ancienne députée socialiste qui l'a dit, par
ailleurs. Tout à fait. Alors, moi, je vous dis, déjà, quand il y a des économistes tels que Michaël Zemmour, Thomas Porcher, Esther Duflo, qui est quand même prix Nobel 2019, qui soutiennent ce programme et qui disent qu'économiquement, il est viable, déjà, je pense qu'on n'a pas trop de leçons à recevoir de certains. Et puis, s'il faut, l'argent, il y en a plein. Mmh. Les dividendes, 72 milliards. On a le record d'Europe. Les aides aux entreprises, 210 milliards. La fraude fiscale, 80 milliards. Donc vous imaginez bien que si on arrive à le chiffrer, déjà, c'est qu'on est capable d'aller les récupérer. Mmh. Et puis, un petit dernier, 15 milliards sur l'ISF. Donc, si on a besoin d'argent, il suffit d'aller le chercher là où il le faut. Mais on y reviendra tout à l'heure, notamment sur la question du pouvoir d'achat. Mmh. Parce que le cœur du système, c'est quoi? C'est la répartition des richesses. Mais juste quand même, pour répondre sur ces problématiques de risques, de bandes, j'ai entendu aussi de parler d'être responsable pénalement à partir de 16 ans. Ça existe déjà. Ça existe déjà.
Non.
Si
non.
On est responsable pénalement à partir de 10 ans, on peut faire de la prison dès 13 ans. La seule différence qu'il y a, c'est qu'entre 16 et 17 ans, il y a un aspect éducatif. Et si on abaisse à 16 ans, on va être jugé comme un adulte. Sauf qu'entre 16 et 18 ans, on se construit. Et vous le savez pertinemment. On ne peut pas juger un enfant comme un adulte. Et enfin, un dernier mot.
Allez-y.
En plus de ça, je vous rappellerai quand même qu'on est signataire de la Convention des droits des enfants et que dedans, c'est acté que la majorité, c'est 18 ans.
François Durand-Vray.
Monsieur Cernon vient d'apporter la preuve qu'effectivement, nous avons un sujet par rapport à la majorité pénale. Mais la question qui est posée, qui est juste derrière, vous avez compris que dans mon esprit, il faut avant tout faire appliquer la loi et l'application de la loi nécessite des moyens pour la justice. Mmh. Il y a un autre élément que je propose, justement pour que les jeunes, puisqu'on parle de délinquance juvénile, pour que les jeunes ne rentrent pas dans une spirale infernale. Parce qu'on sait très bien, notamment que les trafics de drogue que nous connaissons dans nos quartiers et qui pourrissent la vie des habitants, mmh, sont liés à cet enchaînement délirant. Ce qu'il faut, c'est la première sanction. Et la première sanction, c'est quoi? Ce serait par exemple de redonner aux gardiens d'immeubles, comme ça existait auparavant, ou aux agents du service public, la capacité de mettre une amende, pour que tout simplement il y ait un coup d'arrêt dès qu'un enfant sort du droit chemin. Évidemment, derrière, il y a des mesures éducatives. Je suis président d'un département qui met en place ces mesures.
On
mais il faut cette sanction.
Est-ce que c'est un sujet qu'il faut aussi porter au niveau de l'Assemblée nationale, Céric? Il y a un mois, il y a des jeunes qui ont été conviés par des députés de la France insoumise pour une table ronde, justement, à l'Assemblée nationale. Préalable, écrit le Bondy Blog, à une proposition de loi sur le sujet. Une proposition de loi à laquelle vous pourriez prendre part, par exemple, malgré les dissensions politiques?
Alors, je vous avouerai que j'ai pas compris ce qu'était la proposition de loi.
Mais une proposition de loi justement sur ces RICS, c'était préalable donc.
Mais pourquoi? Pour les lutter, pour lutter contre les RICS. Bah, tout ce qui va tout ce qui permet de lutter contre les RICS, évidemment. Mais je ne connais pas le contenu de cette proposition. Donc,
elle n'a pas eu le temps d'être mise en place avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous en conviendrez, puisque le rendez-vous était il y a un mois. Justement, est-ce que vous pourriez prendre part à une proposition de loi
sur tout ce qui permettra de lutter contre les RICS. Et nous avons malheureusement en Essonne et c'est la préfète qui le met en place, puisqu'encore une fois, c'est une responsabilité de l'État, mmh, à mettre en place un certain nombre de mesures avec des choses très simples, notamment des boucles permettant aux élus de prévenir les RICS et des mesures qui sont avec les associations de prévention de la délinquance. Mais évidemment, tout ce qui concourt à lutter contre les RICS, j'espère que c'est un sujet sur lequel nous pouvons nous retrouver.
Mmh. Pour prendre un sujet qui concerne directement le département, je vous propose qu'on passe un petit peu à ces services publics. Hein. Vous appeliez d'ailleurs de vos voeux dans une tribune, remettre du service public. On a parlé tout à l'heure de la police de proximité. Est-ce qu'il faut rétablir cette police de proximité?
Oui, la police de proximité, j'ai toujours considéré que c'était une erreur de l'avoir supprimée. Pour moi, on n'oppose pas la police judiciaire et la police de proximité. Elles sont complémentaires. S'il n'y a pas la police de proximité, il n'y a pas la connaissance du terrain, il n'y a pas l'alerte. Et regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas, qui est passionnant. Aux Pays-Bas, dès le premier délit, même à 14 ans, il y a une sanction. Ce n'est pas bien sûr la même sanction qu'à 18 ans. Mais ça veut dire parfois un enfermement de 8 jours dans un établissement adapté, pas avec des délinquants chevronnés. Et ça a permis de faire baisser le nombre de policiers, de prisonniers. En France, on a dans nos quartiers des gens, et ça on est tous d'accord là-dessus je pense, ils ont 50 délits, 50. Ils sont jamais emprisonnés. Hier, j'étais à la sortie d'un supermarché, il y avait une dame, elle est assistante maternelle, elle est au rez-de-chaussée d'un immeuble de nos villes, je ne vais pas citer laquelle, et elle ne peut plus avoir d'enfants comme assistante maternelle parce qu'elle a des trafiquants de drogue devant sa porte. Ils ont été condamnés 20 fois. Donc, tant qu'on ne changera pas radicalement, ça continuera. Donc, arrêtons ce bavardage général, prenons des mesures. Premier délit, emprisonnement, même 8 jours,
police,
comme en Angleterre, comme aux Pays-Bas, avec les deux.
Mais c'est une question de volonté.
Mais c'est une question, il ne faut pas soutenir ceux qui ont échoué. Il faut changer de cap. Non mais attendez, excusez-moi. Moi j'entends ça, une question de volonté depuis 20 ans.
20 lois en 40 ans.
Mais oui, parce que ce sont les mêmes qui gouvernent. Ce sont les mêmes qui gouvernent. Mais j'étais dans l'opposition, figurez-vous.
Je ne sais pas où c'est.
Moi j'étais
pas dans la majorité. Un coup avec Marine, un coup...
Mais attendez, on n'a pas gouverné.
Mais moi je suis...
Je suis ravi que M. Ciotti, qui défend ce que je défends depuis des années, M. Ciotti a enfin pris son choix. Mais... Enfin, M. Ciotti choisit. Et je le dis à nos électeurs, c'est vraiment une chance inouïe, historique, de pouvoir prendre les mesures. Et je trouve tellement triste que les Républicains, qui ont peur de tout, aillent faire la godille avec ceux qui sont responsables du bilan. Mais c'est tellement triste. Alors qu'on pourrait résoudre les problèmes, là. On a une occasion.
Monsieur Dupont-Aignan oublie qu'il est député depuis 27 ans et qu'il a appartenu à une majorité.
Non.
Moi,
j'ai pris mes responsabilités.
Je vais vous couper, messieurs. Je voudrais simplement qu'on écoute, avant de continuer ce débat, deux personnes que nous avons rencontrées ce matin à Montgeron. C'était justement sur ces services publics, alors plus vraiment sur la sécurité, surtout sur l'éducation. Elles étaient au micro... ces deux personnes, de Laura Tapiro et Elisa Kehak.
Il y a les écoles, effectivement, où on a un gros problème de professeurs, de remplacements, de surveillants. On a, nous, une école en grève, un collège à Hyères, Crosne, qui est en grève depuis vendredi dernier. Les enfants n'ont pas cours.
Bah, déjà, pour moi, ça serait bien qu'ils mettent plus de profs dans l'Essonne, parce que je vois ma fille qui est en 5e au collège Bellevue. Pendant presque 3 ou 4 mois, ils n'ont pas eu de prof de français ni de prof de maths. Donc quand même, c'est des matières assez importantes. Aujourd'hui, ils devaient avoir cours, il n'y a pas de surveillants. C'est vraiment lamentable, l'éducation nationale.
Vos mesures, François Durovray, pour remettre un professeur devant chaque classe, pour avoir justement ces élèves qui ne connaissent pas des dizaines d'heures sans professeur?
Alors, il se trouve que la situation qui est évoquée dans votre reportage, j'en ai été alerté, c'est un sujet de l'éducation nationale, hein, et pas du président de département.
Bien sûr.
Mais parce que dans ce collège, à Bellevue, effectivement, il manque des enseignants, et que j'ai appelé la directrice académique et que le nécessaire est fait demain. Donc, c'est le rôle des élus d'être sur le terrain et de traiter ce genre de situation.
C'est pas la première école où ça arrive.
Bien sûr. Et on a un sujet sur l'ensemble de nos services publics et un sujet d'ailleurs de financement de nos services publics, peut-être qu'on l'abordera plus tard dans le débat, mais nous sommes un pays qui ne crée plus de richesses, et qui se met en retard par rapport aux autres pays européens, par rapport à l'Allemagne, par exemple. Aujourd'hui, un Français gagne 20% de moins qu'un Allemand, il y a, et cela en l'espace de 20 ans. Mmh. Et cet appauvrissement du pays a des conséquences à la fois sur le pouvoir d'achat des Français, mais sur la capacité de financement des services publics. C'est vrai dans l'hôpital, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans les services publics locaux. Et donc, il faut, plutôt que de taper sur les services publics, comme le souhaite le Rassemblement national, plutôt que de considérer que dans le service public, il n'y a rien à changer, comme le considère LFI, il faut avoir des services publics performants, mais des services publics qui ont les moyens, en créant à nouveau de la richesse dans ce pays.
Il n'y a rien à changer, Béranger Cernan, dans les services
Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer. Et en premier lieu, les personnes qui le dirigent. C'est-à-dire que nous, on estime qu'en tout cas, on doit avoir un État stratège concernant les services publics. C'est-à-dire un État qui prend des décisions qui vont dans le bon sens, que ce soit dans le ferroviaire, que ce soit dans les services postaux, que ce soit dans les télécoms, etc., etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique capitaliste, dans une logique ultralibérale, où il faut ouvrir à la concurrence, et où finalement, ça crée du chaos. On le voit dans les hôpitaux, on le voit dans les transports. Monsieur Durovray, je pense que vous avez des beaux exemples dans l'Essonne, hein, avec des catastrophes quand même assez remarquables, notamment le T12, par exemple, hein, inauguré il n'y a même pas 6 mois. C'est une véritable catastrophe. Tout le monde en a marre. Le contrat va se terminer, on va changer d'opérateur, tellement que l'opérateur qui avait été choisi, c'est une véritable catastrophe. Voilà où c'est que ça nous mène. Les bus, alors là, je ne vous en parle même pas, il y a des temps d'attente qui sont rallongés comme jamais. Tout le monde se plaint, alors que les transports en commun, ça devrait être développé et mis en avant par rapport à l'urgence climatique. Mais pour revenir à l'éducation nationale, parce que finalement, tous les services publics, c'est toujours la même logique. La même logique, c'est de couper financièrement tout, et puis en fait, de les laisser, entre guillemets, pardon du mot, mais crever. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec l'éducation nationale aujourd'hui. Quand on n'arrive plus à recruter d'enseignants, il faut se poser la question de pourquoi on n'arrive plus à les recruter. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de sens au travail aujourd'hui. On donne plus de sens au travail que l'on fait. Aujourd'hui, vous pouvez être enseignant, si quasiment la veille vous étiez restaurateur ou vous étiez je ne sais quoi. On a supprimé les concours pour entrer dans l'éducation nationale. Mmh. On a supprimé la reconnaissance du métier d'enseignant. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des enseignants, forcément, qui n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes moyens, déjà, de transmission des savoirs que ce qu'avaient nos anciens, et qui, forcément, au bout d'un moment, eh ben, viennent à péter des plombs, parce qu'en plus de ça, on rajoute des réformes tous les quatre matins concernant l'école. Dernièrement, le choc des savoirs, tous les enseignants sont contre, tous les parents d'élèves sont contre, et pour autant, on y va, on va jusqu'au bout. Le faut que ça s'arrête.
Le choc des savoirs, on l'abroge, François Durovray ?
Oh, oui, effectivement, oui. Enfin, il y a un bâton. Bien sûr, non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais ce qui m'épate quand même dans les propos de M. Cernon, qui, moi, je partage beaucoup du constat, et notamment de l'enjeu de redonner du sens au métier du service public. Je suis à la tête d'une collectivité avec 4000 agents, plus 2000 pompiers. Je suis à leur côté au quotidien. Je sais les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Et je sais aussi que leur pouvoir d'achat a considérablement baissé, parce qu'il n'y a pas eu de revalorisation de l'indice, du point d'indice, depuis 10 ans. Mais le problème de la gauche et de LFI, c'est qu'aujourd'hui, elle veut mettre à terre le service public. D'ailleurs, qu'elle s'occupe aujourd'hui de questions qui sont accessoires par rapport à l'enjeu d'égalité, de laïcité. Lorsque vous défendez notamment l'abaïa dans le... Mais si, quand, lorsque vous défendez l'abaïa...
Je sais que vous avez vu ça, mais bon...
Bah, c'est la réalité.
Oui, oui, non, mais je ne sais pas ce que ça vient faire.
Mais si, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous faites la promotion de ce qui divise les Français, de ce qui correspond.
Mais au contraire, les services publics, ça doit rassembler les gens. Les services publics, ils appartiennent aux gens, ils appartiennent pas à je ne sais qui, pas au droit privé. Quand je vois les moyens qui sont alloués les moyens alloués aux écoles privées, et que pendant ce temps-là, dans l'école publique, il n'y a pas de chauffage. On est obligé de travailler avec les fenêtres ouvertes parce que sinon elle se casse la figure. Et puis je vous parle même pas de la peinture. Enfin, franchement.
Très rapidement.
Je peux dire un mot sur les services publics quand même.
Vous aurez droit à la parole dans très peu de temps. François Durovray, on termine très rapidement justement sur l'éducation. Vous parliez donc avant de parler de la bataille.
Non mais l'éducation, puisqu'on parle, et l'enjeu principal, c'est quoi? C'est de restaurer le mérite à l'école pour permettre à nos enfants de l'émancipation. Donc il y a évidemment l'apprentissage des savoirs fondamentaux. C'est l'autorité du maître sur l'élève. C'est la capacité pour un maître de proposer le redoublement. Au-delà de ça, attendez, excusez-moi, l'enjeu, et lorsqu'on est parent d'élève, c'est qu'on veut assurer un avenir à ses enfants, donc il faut que l'école, elle l'élève à nouveau. Or, aujourd'hui, l'école ne lève plus parce qu'il n'y a plus cette expression du mérite, et il y a la nécessité impérative de retrouver un certain nombre de principes qui ont fait la réussite de l'école du temps de ma génération, des générations précédentes, et qui aujourd'hui ne fonctionnent plus.
Vous étiez en avance, Nicolas Dupont-Aignan. Je vous fais confiance pour être très bref sur cette question des services publics, parce qu'on va enchaîner sur le pouvoir d'achat. Deux chiffres, allez-y.
Deux chiffres. Emmanuel Macron et ses gouvernements ont supprimé 26 000 lits d'hôpitaux depuis 2017. Ce qu'ils font avec l'hôpital, de destruction de l'hôpital public, et là je suis d'accord pour une fois avec M. Cernon, ils le font avec l'école. C'est la même politique de destruction de l'école publique avec la contractualisation. Il faut payer nos enseignants. Il faut revaloriser le métier d'enseignant avec concours. C'est la seule solution pour s'en sortir. Mais pour ça, bien sûr, ça coûte 10 milliards. Et moi, je l'avais chiffré pendant la présidentielle. Mais pour ça, il faut faire des économies ailleurs. Et je trouve ahurissant, mais je vais vous dire, il y a 5 millions de fausses cartes vitales en France. Ça coûte entre 15 et 20 milliards d'euros. C'est un rapport parlementaire du Sénat et de l'Assemblée de gens qui ne sont pas de mon bord, de socialistes, d'UMP, d'anciens UMP. Eh bien, moi, je veux simplement qu'on fasse des économies sur les gaspillages et qu'on les mette sur les services publics. Tout le reste, c'est de la littérature. Parce que quand il n'y a pas d'enseignants dans les classes, ça ne peut pas marcher.
On va continuer.
Voilà, ça, c'est simple, concret. Et j'ai même écrit un livre là-dessus, Nouvelle Pognon.
On écoute une autre habitante de Montgeron, justement. On enchaîne tout de suite avec le pouvoir d'achat, parce que ça préoccupe beaucoup les Franciliens. On l'écoute, cette habitante.
Je ne vais plus au cinéma, par exemple. Je ne vais plus voir une pièce de théâtre parce que ça coûte très cher. Aujourd'hui, la place de cinéma, elle est à 12 euros. Vous vous rendez compte? Il y a énormément de choses, des loisirs et des hobbies que je ne peux plus faire. Je mange, certes, mais voilà. La vie ne se résume pas à manger et à dormir. On a l'impression de travailler pour payer et voilà. On ne profite plus de rien, en fait.
Béranger Cernon, comment est-ce qu'on vient finalement en aide à des habitants qui gagnent leur salaire uniquement pour payer leurs factures, leur loyer ?
Et encore dans le meilleur des cas, parce que malheureusement aujourd'hui, la réalité c'est qu'il y a beaucoup de Français qui sautent des repas, qui n'arrivent plus à payer leurs factures et qui sont dans une précarité absolument terrible. Le cœur de notre programme, c'est la question de la répartition des richesses. Parce que quand j'entends M. Durovray qui m'explique qu'on n'a plus de thunes et qu'on ne peut plus financer les services publics, je suis effaré.
Je dis qu'il faut créer de la richesse.
Très sincèrement.
Pourquoi ?
On a le record d'Europe de dividendes reversés aux actionnaires. On a un patron, M. Carlos Tavares, 36,5 millions d'euros par an. Vous n'allez pas me dire quand même qu'il n'y a pas d'argent, quoi. Monsieur, d'ailleurs, je vous pose la question. Si on fait une loi qui permet d'éviter ce genre d'écart... Vous l'avez
Bien sûr, je suis choqué aujourd'hui par ces rémunérations.
Et du coup, pourquoi
mais c'est pas ça qui règle les problèmes que
d'accord, mais
vous
pourquoi
évoquez.
Ça n'a pas été fait ? Pourquoi votre groupe ne l'a pas voté ?
Non mais attendez, je ne suis pas parlementaire, que je sache.
Donc, d'accord, mais enfin, vous étiez adhérent quand même à un parti politique.
Oui, et alors ? Enfin voilà, il y a des parlementaires, enfin, chacun.
Pourquoi est-ce que les républicains ne
voilà, tout simplement.
Pas ce type de mesure
Je veux dire, vous nous expliquez qu'il n'y a pas d'argent et que du coup, on ne peut pas améliorer les choses, finalement. Nous, on vous dit
mais je suis pour la limitation des rémunérations, c'est clair, voilà.
Donc pour un plafonnement des rémunérations.
C'est pas ça qui règle le problème.
Il y a également sur la répartition des richesses.
Alors, François Durovray d'abord et Nicolas Dupont-Aignan par la suite. Comment on règle le problème de ces franciliens, ces français même, qui n'ont pas le pouvoir de vivre, le pouvoir de se cultiver, le pouvoir d'avoir des loisirs autres que payer leurs factures et leur loyer.
Alors d'abord je voudrais dire à madame dans le reportage que nous avons créé dans le Val-de-Seine deux cinémas avec des entrées à 6 euros. Pour justement que la culture soit accessible à tous. Ensuite, la question du pouvoir d'achat, qui est évidemment essentielle, ne va pas se traiter d'un coup de baguette magique. Quand j'entends mes concurrents, ils créent de l'argent qui n'existe pas. Il y a 100 milliards de projets du côté du Rassemblement national, 300 milliards du côté de la France insoumise. Dès lors, ce sont les économistes qui le disent, 300 milliards, donc de l'argent qui aujourd'hui n'existe pas. Je le disais tout à l'heure, pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, il faut créer de la richesse. Comment on crée de la richesse ? En créant de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons en France un taux de chômage deux fois supérieur à la moyenne européenne, particulièrement pour les jeunes. Donc il faut lancer des vrais plans pour permettre à ceux qui sont aujourd'hui privés d'emploi d'avoir un emploi. Ainsi, on va recréer de la richesse dans le pays. Et en créant de la richesse, on va pouvoir à la fois améliorer le pouvoir d'achat des Français, financer nos services publics, rembourser notre dette.
Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ?
Les salaires, ils augmentent naturellement dès lors que, justement, il y a plus d'emplois et du coup que les charges sociales sont plus faibles et qu'on peut financer notre État-providence en s'asseyant sur un nombre plus important de salariés. C'est la base.
Nicolas Dupont-Aignan, très rapidement.
Vous savez, j'entends ce discours depuis 20 ans. Donc ça prouve bien d'ailleurs que M. Durovray est vraiment le candidat de ce qui s'est fait depuis 20 ans. Moi, je crois qu'il y a des mesures d'urgence à prendre. Première mesure, il faut revenir au tarif national de l'électricité, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal. Mmh. Ce n'est pas sortir du marché européen, c'est fixer notre tarif de l'électricité en fonction du prix de production d'EDF et arrêter la privatisation. Le rapport de la Cour des comptes, ce n'est pas moi, dit qu'il y a eu 30 milliards d'euros de gaspiller pour les fournisseurs d'électricité privés. Cet argent, moi, on va le rendre immédiatement aux Français. Ça veut dire une division par deux de la facture d'électricité. Mmh. Ça, c'est considérable. Deuxième point, ce que je propose depuis 10 ans, il faut baisser la TVA sur le prix de l'essence parce qu'on paye une TVA sur la taxe. On est le seul pays au monde qui fait ça. Mmh. Et ça va donner une bulle d'air, d'abord tout de suite, pour ceux qui n'en peuvent plus. Et ça peut faire 50 à 100 euros par mois. Ça, c'est tout de suite. Mmh. Et puis, parallèlement, il faut produire en France, c'est-à-dire baisser les charges pour produire davantage en France. On a une pénurie de médicaments. Ma fille, là, avait une bronchite. Mmh. Eh bien, pas d'amoxicilline dans nos pharmacies. Ça veut dire qu'il faut relocaliser en France. Il faut arrêter cette politique folle du libre-échange international, où on importe du bout du monde des produits, on délocalise, c'est une folie.
On va simplement conclure cette émission qui est déjà presque à son terme, avec un dernier mot justement. Je vais vous proposer de conclure ce débat, messieurs, par quelques mots sur votre candidature, sur votre programme un peu plus généralement, et on va y aller donc par ordre de ceux qui doivent récupérer un petit peu de temps. Béranger Sernon, par exemple, c'est à vous.
Bah, écoutez, moi je ne suis pas un politicien, je ne vis pas de la politique. Je n'ai pas fait les grandes écoles, que ce soit l'ENA ou Sciences Po. J'ai construit mes idées politiques au contact du monde ouvrier, au contact du monde salarié. La vraie vie, je la connais. Et si je me présente à cette élection, c'est pour Défendre les gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, défendre les gens qui ne se reconnaissent plus dans les services publics qu'on est en train de détruire, qui galèrent tous les matins à attendre le RER sur le quai parce qu'il y a des problèmes matériels, parce qu'il y a des problèmes de recrutement, etc., etc. Mais pour y répondre, face à l'urgence sociale, à l'urgence démocratique également, l'urgence écologique évidemment, il y a besoin d'unité, il y a besoin d'union. Et cette union, c'est le nouveau Front populaire, c'est ces personnes qui viennent de la société civile et qui comptent changer les choses parce qu'on a besoin de changer les choses. Aujourd'hui, des gens souffrent alors que d'autres s'en mettent plein les poches. Et pour nous, c'est quelque chose qui doit absolument changer. On a tous le droit de vivre de notre travail. On a tous le droit de pouvoir profiter d'une retraite digne avec le fait de pouvoir partir non pas à 64 ans, mais à 62 ans. Et avec l'objectif de 60 ans. C'est ça notre projet de société.
Merci beaucoup. On va enchaîner avec vous, François Durovray, votre mot sur votre candidature et pour ces 10 derniers jours qui restent avant le premier tour.
Je crois que chacun aura compris que l'élection du 30 juin est cruciale pour l'avenir du pays. Et je ne veux pas, pour la France, l'arrivée des extrêmes au pouvoir, ce qui signifierait le chaos. Je veux proposer un choix responsable, un choix d'espoir. Parce qu'il n'y a pas de fatalité au déclin du pays. Nous avons la capacité de redevenir un pays sûr, prospère, qui prépare l'avenir de ses enfants. Alors pour cela, j'ai décidé de me porter candidat et j'ai une conviction, c'est que pour y parvenir, il ne faut surtout pas diviser les Français, mais il faut les rassembler. Et donc j'invite nos téléspectateurs à se rassembler autour de ma candidature dès le premier tour.
Merci beaucoup François Durovray. Nicolas Dupont-Aignan, vous aurez le mot de la fin.
Eh bien, c'est un choix crucial pour la France. Est-ce qu'on continue, comme on a vu là depuis 2017, à voir le pays détruit et les Français souffrir? C'est pas possible. Est-ce qu'on part à l'aventure avec M. Mélenchon? Et si M. Cernon dit des choses très justes que je partage, malheureusement, il est solidaire d'une politique qui serait complètement folle. Moi, les gens me connaissent. On veut me faire passer pour extrémiste, alors que je ne le suis pas, et que nous pouvons enfin réussir à traiter les problèmes du pays de manière concrète, posée, modérée, comme je l'ai fait dans ma ville de hier, et comme je le prouve dans ma circonscription auprès de tous les habitants depuis tant d'années.
Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, merci à tous les trois donc, d'avoir participé
merci à, vous.
À ce débat, merci. Donc prochain débat jeudi prochain, d'ici là pour faire votre choix, on va vous remettre ce QR code, vous le savez, qui vous permet eh bien, d'accéder à la liste des candidats pour votre circonscription, ce QR code hein, qui s'affiche juste là sur votre écran, sur notre site web, vous retrouvez donc tous ces candidats dans votre circonscription et l'information se poursuit sur BFM Paris Île-de-France, premier tour, retenez bien le 30 juin prochain.